et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort.
Le karaoké chez vous, ça marche du feu de Dieu.
Emmanuel Moulin, vous connaissez ce nom?
Non, Emmanuel Moulin est un proche du président de la République. Il doit être auditionné par la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat avec en perspective le fauteuil de gouverneur de la Banque de France.
Alors tout d'abord, ce n'est pas la compétence d'Emmanuel Moulin qui est en cause parce qu'il coche toutes les cases, c'est un haut fonctionnaire, il a été directeur du Trésor, il est passé par les cabinets de Nicolas Sarkozy et jusqu'à peu, il était secrétaire général de l'Élysée aux côtés d'Emmanuel Macron. Il a 57 ans. Il pourrait donc remplacer François Villeroy de Gallo, le gouverneur depuis 2015 de la Banque de France. C'est l'un des beaux fromages de la République, dénoncé souvent par notre ami Charles Consigny. C'est une durée de 6 ans, le mandat, et c'est renouvelable une fois. Donc on peut y rester 12 ans. C'est pas mal. Bon, le problème, c'est que... Alors Emmanuel Moulin, c'est pas fait, parce que ça doit être voté par les deux assemblées, Sénat et Assemblée, et Assemblée nationale et de le Parlement. Et il suffit, pour qu'il ne passe pas, que les 3/5 des suffrages soient défavorables. On sait que déjà la gauche va voter contre, le RN aussi, donc tout repose sur les voix des LR. Ils sont en train de négocier avec les LR pour faire passer Moulin. Richard Ferrand, au Conseil constitutionnel, ça s'est joué à quelques voix près, parce que effectivement, ça commence à faire beaucoup, c'est ce que disent les socialistes. Donc Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, et maintenant Emmanuel Moulin, le secrétaire général de l'Élysée d'Emmanuel Macron, à la Banque de France. On verrouille, alors c'est légal puisque c'est les pouvoirs de nomination du président, mais est-ce que c'est quand même pas déplacé, sachant qu'Emmanuel Macron quitte le pouvoir dans un an?
Ouais, au PS, on parle de nomination de complaisance, et Jean-Philippe Tanguy pour le RN dit, voilà, on anticipe la victoire du Rassemblement National, on veut tout verrouiller, on veut nous empêcher de travailler.
Pour rigoler, on va juste mettre la Front National à la place de Macron aujourd'hui, il ferait quoi? Je veux dire, si tu me donnes le pouvoir de nommer des gens à des postes clés et que j'en ai le réel pouvoir, évidemment que je vais prendre dans les gens que, évidemment, à compétence nécessaire pour le poste, mais je vais prendre les gens qui sont quand même plus de ma famille et qui me paraissent plus adéquates d'assumer le projet que d'aller chercher des gens qui sont dans l'opposition et qui vont me foutre des bâtons dans les roues tous les 5 minutes.
Oui, tu peux mettre des gens moins marqués.
Mais alors, soit tu changes carrément le système et c'est plus le président qui nomme ces gens-là, et puis c'est nommé soit par l'Assemblée, soit par le Sénat, j'en sais rien, ou les deux.
Ou tu peux faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire que le président qui arrive... Il change tout le monde. Oui, ben. Et en fait, comme ça, il a les gens qui vont le servir, entre guillemets, enfin, qu'on lui permette d'appliquer sa politique. Parce que la crainte, c'est que ces gens-là, au poste où ils sont, freinent une politique qui soit en leur faveur.
Ça correspond bien au système français. Tu mets en France, je veux dire un truc, on élit un président, et puis la semaine d'après, on lui donne pas la majorité à l'Assemblée, pour que ce soit bien le bordel. Bon, ben, on aime bien ça. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans un pays tordu.
Oui, Sandrine.
Moi, j'ai pas parlé aussi du Conseil d'État avec Marc Guillaume, un proche d'Emmanuel Macron, qui est nommé au Conseil d'État.
Non, je suis pas choquée, je te rejoins complètement, Johnny. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, je crois, il y a pas plus tard qu'il y a 15 jours. C'était pour, je sais plus d'ailleurs, quelle nomination qui était mise en cause. Moi, je trouve que, pareil, qu'à partir du moment où tu as envie de nommer quelqu'un parce que il fait partie de ton entourage, parce que tu as confiance en lui, tu connais ses compétences, je vois pas où est la difficulté. Là, en tout cas, la vraie question pour moi, c'est celle des prérogatives de la Ve République. Oui. La Constitution, quand elle a été rédigée en 58, c'était dans un contexte de crise et d'instabilité. Aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il faudrait pas changer la Constitution pour que justement il n'y ait plus ces prérogatives qui soient données.
Et par exemple, à l'Assemblée, le président de la Commission des Finances, maintenant c'est devenu la tradition, il est dans l'opposition. Donc c'est Éric Coquerel alors que c'est le Cornu qui a Matignon. C'est possible.
Oui, parce que c'était une connerie inventée par Nicolas Sarkozy, mais qui reste une connerie, mais parce que ça crée une complication dans le fonctionnement parlementaire, Dieu sait s'il y en a déjà. Donc là, sur les nominations dont on parle, c'est un recasage en remerciement de proches soutiens, soutien aveugle, vraiment le clan... pas le clan des Siciliens, mais du dernier carré.
C'est ce que tu dis.
Mais ils sont quand même pour pondérer, en dehors peut-être de celui du Conseil d'État, là, qui est en balance.
Marc Guillaume.
Ils sont quand même soumis à une certaine neutralité dans ce type de fonction, la Banque de France, la Cour des comptes. Donc, la nomination de complaisance en remerciement n'a pas forcément d'effet direct sur des structures en plus qui sont de grande taille et très collégiales de fonctionnement.
Pardon, je te trouve naïf, Emmanuel, et c'est toute ta fraîcheur d'âme. C'est ta fraîcheur d'âme qui s'exprime là, mais pardon. On imagine bien. Imaginons que c'est Jordan Bardella qui est à l'Élysée. tu crois pas qu'un Richard Ferrand, qui est vraiment un politique, un Richard Ferrand, c'est pour ça qu'Emmanuel Moulin, il est moins politique, c'est plus un techno, c'est un haut fonctionnaire. Mais Richard Ferrand, qui est un politique, qui est au Parti Socialiste, pendant des années, qui a rejoint ensuite Emmanuel Macron, tu crois pas qu'au Conseil constitutionnel, il n'aura pas la tentation de retoquer les lois qui lui pourraient lui déplaire venant du camp du Rassemblement National? Et si c'est Jean-Luc Mélenchon, pareil. C'est-à-dire si on a une offre un peu plus radicale, LR, bah, visiblement, il compose, parce que
on a tellement vécu de choses depuis une dizaine d'années, tellement de choses vraiment minables. Je pense par exemple la tournée du grand débat. Ça, c'était quand même.
Et après les gilets jaunes,
quand même une catastrophe. La convention citoyenne pour le climat. On réunit des incompétents et on essaye d'en sortir quelque chose. Et après, on l'impose à toute la population.
Il n'en a rien resté de la convention citoyenne sur.
Heureusement.
Et puis il y a eu la convention citoyenne sur la fin de
Alors,
vie.
Alors Monsieur Moulin à poivre, c'est encore autre chose.
Emmanuel Moulin à poivre, ça va être la vanne du jour. Je te remercie de nous l'avoir servi comme ça sur un plateau. Mais en faisant ça, finalement, est-ce que ça n'alimente pas justement l'électorat du Rassemblement National? Tu sais, parce que aujourd'hui, soit de la France insoumise, du Rassemblement National, qu'est-ce qu'on dénonce? On dénonce toujours un système. On se veut être les partis anti-système. Et finalement, en procédant à ces nominations, bah, tu alimentes leur électorat en disant, voyez, quand on vous dit que c'est la même bande, que c'est les copains, qu'ils verrouillent tout, qu'ils ne veulent pas que ça change, qu'ils se mettent au poste clé, bah, finalement, tu as une bande. Alors, appelle ça de la démagogie, appelle ça du populisme, mais tu fournis le carburant.
C'est vrai qu'LFI est tellement bien placé pour parler de système et de choses verrouillées, quand tu vois comment ça fonctionne dans leur propre parti, effectivement, en ce qui est question de verrouiller, ils savent de quoi ils parlent. Parce que, en fait, on a bien vu que dans ce parti-là, tous les gens qui voulaient sortir un peu la tête, on les a dégagés. Donc, il y a un moment où...
Oui, mais eux, ce qu'ils dénoncent, ça, si tu veux, l'électorat, ils s'en fichent des querelles qu'il y a pu y avoir entre les différentes personnalités de la France insoumise.
Je sais pas sincèrement si,
mais si bien sûr
on
que
peut
si.
Aider en pensant à ça, tu vois.
Mais pourquoi on n'instaure pas une autre règle, c'est-à-dire le président nouvellement élu nomme, dégage ceux qui ne veut pas et qu'il ait le droit de le faire. Et puis où que les mandats démarrent au moment où le président démarre son propre mandat. Enfin, trouver un système comme aux États-Unis moi, ça me choquerait pas qu'il change de directeur de la police et qu'il puisse, puisqu'il vient d'être élu démocratiquement par des millions de Français, qu'il puisse simplement appliquer sa politique. Parce que là, on voit bien quand même que c'est des contre-pouvoirs qui s'installent. Marc Guillaume au Conseil d'État, c'est un contre-pouvoir. Et c'est des contre-pouvoirs, Emmanuel, très importants. Hein. Ça empêche l'application de certaines lois. Par exemple, je prends un exemple. Bruno Retailleau, ton ami, il voulait que les centres de rétention puisse garder jusqu'à 210 jours les personnes les plus dangereuses. Ça a été retoqué par ces instances.
Pas forcément que par le président, quand même. C'est qu'il y a tellement de mauvais esprits en dessous qu'effectivement, ça fait un bon concert.
Ça aide quand même.
Ouais.
Alors, on vous a posé la question. Emmanuel Macron qui nomme ses proches au poste clé, est-ce que vous pensez que c'est de l'abus de pouvoir ou finalement, c'est normal? Le chef de l'État procède dans la dernière année aux nominations et tous les responsables politiques l'ont fait. Non, je suis d'accord, j'ai pas souvenir, on n'a pas dû en 20 ans l'atteindre beaucoup de fois, le 100%. Vous dites abus de pouvoir à 100%.